Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre studio. Nous allons parler aujourd'hui de la musique faite par les maîtrises avant et après la Révolution. Nous avons avec nous Marie-Reine Renan qui est docteur en musicologie. Et Marie-Reine Renan, que je salue dans notre studio, a assuré un cours à l'école du patrimoine et du vitrail ici à Chartres même. Elle nous a tout dit sur l'évolution de la musique au Moyen-Âge, en passant par la monodie et la polyphonie. Nous avons tout appris avec elle. Et aujourd'hui, elle est avec nous, donc je lui laisse pas la parole parce qu'elle va nous parler tout de suite de la naissance, je pense, des maîtrises. Et qu'est-ce que sont ces maîtrises au Moyen-Âge, avant la Révolution surtout? Bonjour et bienvenue Marie-Reine.
Bonjour, merci de votre accueil. Alors les maîtrises dans la tradition de la musique religieuse nous font remonter à très loin. L'Église a toujours utilisé des enfants dès le départ, des lecteurs, a toujours profité des voix aiguës des enfants également pour louer Dieu. Et alors chez nous, les maîtrises sont nées vraiment à l'aube du Moyen-Âge, particulièrement à Chartres, où la maîtrise s'est vraiment enchaînée avec l'école épiscopale. Donc il y a eu un fondu enchaîné depuis le 5-6e siècle. Dans d'autres villes, on va dire que la plupart des maîtrises ont été fondées au 13e siècle, beaucoup au 14e et enfin au 15e. Par exemple, Bourges, la cathédrale, 1392, la Sainte-Chapelle du Duc de Berry, 1402, la maîtrise de la cathédrale de Poitiers aussi à peu près dans ces mêmes périodes.
Et les maîtrises accueillent les enfants assez tôt, je crois.
Alors, les maîtrises accueillent les enfants lorsqu'ils ont 6 ou 7 ans, puisque c'est pour ça que dans certains lieux, on les appelle les nourrissons de l'Église.
Je crois que Bernard n'aimait pas trop qu'on accueille des tout petits enfants, mais pour la maîtrise, c'était juste à fait justifié.
Oui, parce qu'on va profiter de leur voix, qu'on va contribuer aussi à embellir, à former, jusqu'à la mue. Et après, ils deviennent chantres peut-être, mais ils ne peuvent plus avoir cette fraîcheur de voix d'enfant. Donc, il faut les prendre assez tôt pour les garder, en gros, une dizaine d'années. Mais bien sûr, ceux qui s'avèrent mal chantés, cela arrive, on les renvoie.
Est-ce que les familles pose la question à l'évêque si leur enfant peut entrer en maîtrise ou comment se fait le recrutement?
Pas directement aux évêques, la plupart du temps. Enfin, je connais bien et pour cause la maîtrise, les maîtrises de Poitiers et de Bourges parce que j'ai travaillé dessus. Et dans ces villes-là, c'est pas l'évêque, c'est le chantre, le grand chantre qui dirige le chant dans les cathédrales, assisté ou pas du maître de musique. Alors il faut un certificat de baptême, bien sûr, et il faut chanter, montrer qu'on a une belle voix. Mais quelquefois, on peut chanter à peu près passablement ce jour-là, et après, l'enfant ne suit pas, et c'est là qu'on le renvoie dans ses familles, hein, en expliquant aux familles, et on lui donne toujours un petit peu d'argent quand il part, au prorata du nombre d'années qu'il est resté.
Alors, il y a quand même une formation qui permet de découvrir si l'enfant est doué ou pas en musique.
Oui, il y a une formation. Dans les maîtrises, il y a d'abord une formation générale. C'est un petit peu comme une école primaire, ce qu'on appelait les petites écoles, où les enfants apprenaient les rudiments du calcul, de la grammaire, du latin, de la lecture. Et c'est la plus grande importance est donnée à la musique, bien sûr. Alors, il y a un enseignement vocal. On fait des exercices, on apprend les intervalles. Dans les maîtrises médiévales, on s'entraîne en se repérant sur les phalanges de la main. La main, c'est un instrument qui a beaucoup servi pour le calcul depuis très longtemps dans beaucoup de civilisations. Alors on s'en sert en Occident notamment pour expliquer les intervalles du chant. Et puis on apprend la musique à plusieurs voix, la polyphonie. Certains, les plus grands, apprennent à composer, puisque les archives nous disent que quelquefois le grand a pu aujourd'hui diriger un motet qu'il avait écrit de sa main. Donc également diriger, c'est-à-dire la direction de chœur.
Qu'est-ce qu'ils appellent un grand à l'époque?
Alors un grand, c'est les maîtrisiens qui ont vers 16 ans, 15-16 ans, qui sont sur le bord de la mue, mais ils sont encore là. Donc il faut aussi prévoir ce qu'ils vont faire après. Comme la plupart vont être musiciens, chantres, voire maîtres de musique, eh bien on les prépare à ce métier, donc on les entraîne. La pédagogie était très moderne finalement. Déjà.
Est-ce qu'ils arrivaient tous à un âge élevé, puisque nous savons que la mortalité infantile pouvait être assez élevée?
Oui, la mortalité infantile était très élevée. Les familles avaient beaucoup d'enfants, j'allais dire, pour être sûr d'en garder quelques-uns. C'est vrai, il y avait ce problème qui était quand même un certain problème familial dramatique. Mais oui, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Il y a plus d'enfants qu'on ne croit quand même qui restent en vie au Moyen-Âge. Et on dit souvent que le Moyen-Âge a ignoré l'enfance, et c'est faux. On voit dans les enluminures, en iconographie, on voit beaucoup de jeux d'enfants. On n'a pas ignoré l'enfance, c'est pas à la Renaissance qu'on a découvert l'enfance. Il y avait déjà des grands psychologues, si je puis dire, enfin le mot n'est peut-être pas tout à fait, il est un peu anachronique, mais il y avait déjà une psychologie de l'enfance tout de même au Moyen-Âge.
Je crois que vous avez suivi justement à travers votre travail personnel sur un ancien maîtrisien, un peu l'enfance d'un
oui,
futur...
Oui, oui, j'en ai suivi un, j'en ai pisté un, c'est comme ça que je dis.
Parlez-nous-en,
à travers les archives. Oui. Alors, c'est le petit Nicolas Pacotta qui est né à Bourges en 1696, qui a été justement puère, enfant de cœur, puère, dans une maîtrise d'une collégiale de Bourges disparue à la Révolution, à Saint-Ursin. Ensuite, il est devenu justement lui-même, par promotion interne, maître de musique dans cette grande collégiale qui était très en lien avec la cathédrale, aussi à Bourges. Et puis, un poste s'est présenté à Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers. Donc, il a demandé ce poste. Il est allé, il a eu une convocation. Parce que dans ce cas-là, les églises qui demandent des maîtres écrivent dans toute la France, font leur promotion, leur propagande. Et il a été retenu. Alors, il a quitté Bourges, il est allé à Saint-Hilaire-le-Grand où il était très heureux. Il gagnait un petit peu moins cher qu'à Bourges, mais les chanoines se montraient tellement attentifs à la musique et lui donnaient tellement satisfaction que les deux le mariage entre les deux institutions a bien marché. Et alors, il est resté là-bas. Et pourtant, un jour, vers 1724, les chanoines de Bourges, de la Sainte-Chapelle du Duc Jean, un chapitre très riche, un chapitre royal, lui ont demandé de revenir à Bourges parce qu'il était très renommé. À un moment, son cœur et l'amour du pays l'ont fait hésiter. Puis finalement, il est resté à Poitiers, où il a édité une messe en 1729 à Paris, une messe que nous avons pu chanter avec les étudiants de Poitiers il y a peu. Et puis, il est mort à Poitiers en 1731. Voilà une vie. Une vie qui n'est pas tellement relatée. Vous savez, dans les sources, dans les registres capitulaires, on note un tas de choses qui se passent dans les cathédrales. Et puis tout d'un coup, un musicien vient, on note. Si on ne sait pas son nom, on laisse en blanc. Puis tout d'un coup, on dit, tiens, un maître de musique est décédé, puis on passe à autre chose. On est quand même dans l'anonymat.
Relativement dans l'anonymat. Mais là, vous avez pu suivre cette carrière. À quel âge, donc, à peu près, pense-t-on qu'il est mort pour avoir...
Il est né en 1696, il est mort en 1731, oui, donc il faut faire la soustraction.
Oui, donc on ne va pas le faire derrière le micro, parce qu'il y a des choses tellement intéressantes à dire. Donc lui, il a fait la monodie, est-ce qu'il a composé du grégorien, ou est-ce qu'il a composé
ça,
en polyphonie
pas, je ne peux pas le dire. Alors, la composition de la part des maîtres de maîtrise, on composait au jour le jour, c'était une musique usuelle. On composait pour la messe de dimanche prochain, pour les fondations de vendredi prochain, pour la procession qu'on va faire samedi. Et alors, après, la musique, elle n'était pas forcément considérée, comme on ne la gardait pas. On n'avait pas cette notion d'archiver, il n'y avait pas de société d'auteurs et de compositeurs, ce n'était pas cette mentalité. Et alors, il y a même un musicien du XVIIe siècle qui a écrit ses souvenirs à un maître de maîtrise qui a bourlingué un petit peu en France, partout, et qui a écrit de façon très verte, mais très amusante et très réelle, la vie des maîtrises. Et il nous dit que la musique qu'on composait pour le dimanche suivant, après, on en faisait des cornets à épices où on s'en servait pour couvrir les confitures. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est une musique usuelle. La notion de musique ancienne qu'on garde n'existe pas à ce moment-là. On chante la musique du jour, voire la musique d'hier, mais pas celle d'avant-hier.
C'est étonnant. On n'aurait jamais pu croire que l'on puisse, d'abord, d'un dimanche à l'autre, composer une nouvelle pièce, une nouvelle musique, mais on prenait sans doute toujours les mêmes textes, mais on faisait varier les mélodies.
C'est-à-dire qu'on se repose souvent sur l'introïde du jour, sur le graduel. La musique repose souvent sur ce qu'on chante dans la liturgie. Mais enfin, c'est une fonction, c'est usuel. C'est de l'artisanat.
C'est ce qui est absolument différent de notre conception des compositeurs d'aujourd'hui.
Oui, absolument. Et c'est ce qui explique qu'on n'a pas beaucoup de documents, on n'a pas beaucoup d'œuvres. On en a. Mais vous voyez, moi j'ai travaillé sur la maîtrise de Bourges tout au long de son histoire. J'ai jamais retrouvé de musique. On n'a rien. On a des allusions à la rigueur, mais on n'a pas de musique. Alors là, cette messe, elle est très précieuse parce qu'enfin, j'ai travaillé sur quelqu'un et on a une œuvre. Parce qu'elle a été imprimée à Paris.
Donc si les maîtrises existent aux cathédrales, on avait une maîtrise à toutes les cathédrales, mais dans les petites églises, comment est-ce qu'elle était
assurée?
Oui,
on avait des maîtrises dans toutes les cathédrales, plus les grosses églises et les chapelles princières. Il y en avait 400 vers 1789 des maîtrises en France.
Est-ce qu'on peut écouter peut-être une petite pièce de musique qui permettra
Oui, et bien par exemple, on peut écouter une pièce de Josquin des Prés, Ave Veras Virginitas, une pièce pour la Vierge, qui va nous montrer le type de répertoire qu'on faisait au XVe siècle, notamment dans les maîtrises du Nord, autour des endroits où se trouvait Josquin.
Ave, Ave, Ave.
C'est une musique très calme. Nous avons entendu les voix d'enfants, mais aussi des voix d'adultes. Est-ce qu'on faisait chanter les deux ensemble?
Eh bien oui, parce que les voix d'enfants font la partie de dessus, le soprano, je vais dire. Et les enfants ne sont pas nombreux. Une maîtrise, c'est pas une chorale telle qu'on la conçoit de nos jours. Ce sont souvent au départ, à la fondation, quatre enfants. Ensuite, il y a des chrétiens qui laissent une somme à leur mort pour payer la pension et les études de, par exemple, deux maîtrisiens. On arrive souvent à la moyenne de six enfants. Et alors, bien sûr, pour faire les voix, je vais dire pour parler moderne, de ténor et de basse, on utilise des adultes, les chantres.
Et il y avait donc des maîtres de musique dans les cathédrales.
Alors, il y a des maîtres donc de latin, de calcul, d'écriture, et pour la partie musicale, il y a le maître de musique qui, lui, enseigne tous les différents compartiments musicaux que j'ai énumérés tout à l'heure. Alors, ces maîtres, il y a un grand mouvement de maîtres à travers le royaume, parce que la plupart essayent d'avoir des postes intéressants, s'ils en sont capables. À Paris, par exemple, dans les églises parisiennes, c'est déjà la course vers la capitale, un petit peu. Mais en attendant, il faut franchir des étapes. Par exemple, à Bourges, fut un temps, est arrivé un musicien connu de nos jours maintenant, qui s'appelle Guillaume Bousignac, et ce musicien est arrivé au XVIIe siècle, il venait de Narbonne où il avait été enfant de chœur, et puis il a travaillé dans le Midi, et on va le trouver à Bourges, il devait aller ensuite à Tours, etc. C'est sa montée vers la gloire. Et à Bourges, il est resté simplement 2 ans, mais il a dû marquer la musique d'église, parce que le style de ce musicien, c'est de se rapprocher un petit peu de la musique à la mode de l'époque. C'est vrai qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, la musique d'église, c'était aussi une musique avec les techniques nouvelles qu'on découvrait, l'opéra, la musique concertante, le dialogue en musique, etc. Et Bousignac a peut-être fait un séjour en Italie. En tout cas, on commence à voir chez lui les prémices de la musique italienne. Dans ce qu'on va entendre tout à l'heure, ce sera très net. On va entendre Ecce Homo. Donc c'est quelque chose qui fait allusion au moment de la Passion du Christ, le Christ devant Pilate, et on va penser en l'écoutant aux Passions de Bach, on va avoir un dialogue entre un soliste et une foule, un dialogue musical.
Ça dérive un peu. Vous voulez qu'on écoute peut-être la pièce de musique tout de suite? Très bien, pour illustrer votre propos, ça sera parfait. Là, nous sommes très proches du drame liturgique et la liturgie du Vendredi Saint, où effectivement on faisait chanter la Passion.
Oui, moi j'ai dit on peut déjà penser aux Passions de Bach, mais on peut regarder en arrière effectivement, puisque la coutume était aussi que dans les cathédrales et les grandes églises, on représentait, enfin ce qu'on appelle le drame liturgique, on représentait par des moyens, c'était pas du théâtre avec des décors, des mises en scène, mais on mimait un petit peu les scènes, les grandes scènes liturgiques de l'année. Et c'est des choses qui se sont faites jusqu'au 16e siècle. On trouve dans certains missels, la Bourges du 15e siècle, on voit les dialogues de Pâques, les dialogues de Noël, et alors les enfants avaient un rôle. Ils faisaient par exemple les anges, ils chantaient une partie comme ça qui leur revenait. Et quand les grandes passions ont fait leur tournée, si je puis dire, c'est un mot très moderne, les grandes passions d'Angers, etc., Gréban et autres, ont fait des tournées un peu dans la France. Et quand la grande passion est venue à Bourges, par exemple, le spectacle a duré 3 soirs, parce que c'est très long. Les spectacles avaient lieu, quand il y avait des arènes romaines, c'était bien, ça faisait théâtre. Et alors le spectacle avait lieu dans les arènes. Et là, on sait aussi que les enfants faisaient ou les diablotins ou les petits anges, suivant les cas. Ils étaient impliqués aussi dans cette représentation. Alors là, ce qu'on vient d'entendre de Bousignac nous mène donc aux années 1624-1626 à Bourges. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc, à côté des maîtres de musique, il y avait aussi quelquefois des chantres qui venaient au moment de la messe, qui rentraient au chœur et qui demandaient l'autorisation de chanter. Ce sont des musiciens d'un jour. C'est ce qu'on appelle des musiciens passants ou des vicariants. Eux traversaient toute la France et ils avaient l'intention de s'arrêter dans la cathédrale où ils étaient bien accueillis, où l'ambiance leur plaisait. Ils essayaient de rester en disant on veut être embauché quelques années, mais ça ne marchait pas toujours. Il y avait aussi déjà des problèmes pour les salaires, c'était pas évident. Et alors cela suscite quelquefois des histoires à n'en plus finir. J'allais dire j'ai souvenance, c'est pas tout à fait ça, mais presque, parce qu'on rentre dans les archives comme si on vivait les événements. Un jour au 18e siècle, un chantre arrive à la cathédrale de Bourges, juste au moment de la messe, il rentre dans le chœur en courant, il se met à chanter avec les autres. Alors évidemment, le grand chante, le doyen, tout le chapitre est étonné. Alors on appelle le notaire du chapitre qui vient et qui essaye d'attirer le chante à la sacristie pour dresser procès-verbal, parce qu'il avait voulu chanter sans demander l'autorisation. Alors il y a des petites histoires comme ça, la grande histoire est émaillée de petites histoires. Et puis un mot peut-être encore, si vous permettez, sur la manière dont les maîtres de musique traitaient les partitions. En disant partition, j'ai conscience que c'est un vocable très moderne. La partition médiévale, c'est un canevas, d'autant plus qu'on est en pleine période orale. Même si les enfants lisent un peu la musique, ils l'interprètent, on leur apprend à faire quelques ornements, on leur apprend à prendre un recul à partir de ce canevas, parce qu'on est dans une tradition vivante, c'est la musique viva voce, un petit peu comme de nos jours, on retrouve ça. Et Dieu sait si on le cultive maintenant, cet aspect-là. On trouve ça dans les musiques ethniques, dans les musiques traditionnelles, où on maintient une tradition, mais on ne chante pas comme nos ancêtres. Il y a un fil qui nous relie et on interprète comme nous sommes hommes et femmes du 21e siècle. Alors là, c'est un peu pareil. Et en plus, il y avait une nécessité. J'ai dit tout à l'heure, côté artisanal, et j'y reviens, les maîtres de musique avaient dans leur cathédrale tant d'enfants, tant d'hommes. Donc en fonction de leur effectif, des capacités de leur effectif, de la résonance de leur cathédrale, la grandeur, la hauteur, etc., il fallait adapter. Alors même si on achetait une messe polyphonique chez un imprimeur, on en fait venir, on voit ça dans les archives, on a commandé des messes à Paris, eh bien la messe, on l'adaptait. Si on n'avait pas de ténor, eh bien on s'arrangeait pour, on adaptait les parties pour que ça marche quand même. Donc ça restait très artisanal. On pouvait la chanter avec moins d'effectifs. On pouvait au contraire multiplier les effectifs, la réduire, et puis on utilisait à partir du 17-18e siècle aussi, on utilisait beaucoup d'instruments dans le chœur. Il y avait l'orgue bien sûr, mais il y avait aussi des instruments comme le serpent, la basse du cornet à bouquin, et puis les violoncelles et aussi la basse de viol. Il y a même eu une guerre à une période entre violoncelles et basse de viol. On a des traités entiers pour nous dire lequel est le meilleur, parce que les deux instruments ont existé fut un temps avant que les basses de viol ne connaissent une récession. Donc, de façon artisanale, on adaptait tout ça selon les besoins du jour, selon le goût aussi quelquefois des chanoines, parce que les chanoines, c'était l'organe de décision, de gouvernement, présidé par le doyen, et il y avait des dialogues avec les maîtres de musique. Et puis enfin, ces maîtres de musique, quelquefois, c'était aussi les enfants terribles du chapitre, parce qu'ils ne suivaient pas le règlement. Il y a un maître de musique, par exemple, qui n'emmène pas les enfants se promener une fois par semaine. Eh bien, il va monter au chapitre, comme on dit, à la réunion hebdomadaire, et il va recevoir quelques semences. Et il y en a qui vont au cabaret, ben ceux-là, ces messieurs les chanoines, s'en débarrassent très vite.
Oui, bon, c'est,
Tout un monde. Et oui, tout le monde est là pour chanter la gloire de Dieu, la louange pérenne. Mais ce sont quand même des institutions humaines et donc, avec tout ce que cela implique.
Donc, les maîtrisiens ne devenaient pas forcément prêtres. Ça n'a rien
non, certains maîtrisiens, recevaient les ordres, certains. Mais d'autres devenaient donc instrumentistes ou chantres et puis maîtres de musique. Et d'autres apprenaient des métiers. On voit souvent que le chapitre, quand l'enfant arrive vers 14-15 ans, il va muer. Donc, il va partir du sein de la petite maîtrise. Alors lui, il demande l'autorisation, comme on dit, de faire venir ses cheveux, parce qu'ils avaient la tête rasée. Donc pour ressortir dans le monde, il demande au chapitre s'il peut laisser venir ses cheveux. Ensuite, le chapitre calcule le nombre d'années qu'il a été là. On lui donne au prorata de ça un vêtement neuf et une somme d'argent. Et alors, certains ont des bourses, on voit, pour apprendre des métiers manuels. On fait un contrat avec un menuisier ou un tapissier ou autre, et l'enfant est placé là.
On leur rasait le crâne complètement ou on maintenait juste les cheveux courts?
Ah, le crâne rasé.
Pour des raisons hygiéniques, j'imagine. Pour des raisons hygiéniques, j'imagine.
Peut-être aussi, ou oui, peut-être.
Et est-ce qu'on a des informations sur le fait qu'un enfant sorti de la maîtrise demande à être intégré dans un séminaire ou ce genre de mouvement?
Par exemple, un jour, quelqu'un qui s'intéresse à l'orgue, qui apprenait l'orgue à Bourges, à la Sainte-Chapelle, au 18e, demande à aller à la Flèche parce que là, il y a un organisme renommé et il veut aller se perfectionner. On sait où ils partent, oui. Donc, et de même, quand ils arrivent, on dit « tel enfant est arrivé, baptisé tant, de son père, sa mère s'appelle comme ça, ont tel métier ». Mais souvent, le scribe du chapitre n'a pas l'information, il laisse en blanc, en disant « je vais le compléter demain ». Et puis, comme nous tous, il oublie, et on a malheureusement quelquefois des blancs.
Nous sommes rassurés si à l'époque, on avait déjà des trous de mémoire, on n'a pas tellement de choses à nous reprocher. Donc, les maîtrises font partie du paysage, donc au Moyen-Âge, on a des écoles de musique un peu partout aussi.
Les maîtrises font partie du paysage et du métabolisme des villes. Hein. Dans les villes, imaginez toutes ces églises. Les villes, il y avait beaucoup d'églises dans une ville comme Chartres, avec le rythme des cloches qui sonnaient tous les offices, les maîtrisiens qui se lèvent la nuit pour aller aux offices de nuit. Et puis quand on va aux offices de nuit jusqu'au 17-18e siècle, à Bourges, on voit, par exemple, une fois, il y a un chanoine qui s'est fait assassiner en allant de sa maison canoniale à la cathédrale, parce que l'endroit, il y avait des bandits la nuit et la sécurité n'était pas...
Vous parlez là de Bourges, parce que...
Là, je parle de Bourges particulièrement.
Et la même chose est passée aussi à Chartres.
Oui,
et le chapitre a acheté au roi le privilège de pouvoir fermer les portes
du
cloître.
Donc, les maîtrises font partie intégrante de la cité, suivent ce rythme. La cité était bercée par ces cloches qui annonçaient tous les offices dans une journée. Les journées se regroupent en semaines et les offices du dimanche. Il y a tout un rythme, la circulaire. L'année se déroule comme ça avec des cercles concentriques du plus petit au plus grand. Et alors, la maîtrise, donc, elle n'est pas si isolée qu'on l'a dit pendant un moment, elle est vraiment intégrée et intégrante dans la ville. Alors, c'est vrai que les maîtrises étaient des viviers des musiciens de l'Ancien Régime. La plupart des musiciens en Europe de l'Ancien Régime ont été maîtrisiens. Mais il y avait aussi des écoles extérieures pour les enfants laïcs dans les monastères, et il y avait, après, à partir de la Renaissance, des cours particuliers. On a longtemps dit les seules écoles de musique de l'Ancien Régime étaient les maîtrises. Même le professeur Chaillet l'a écrit dans la préface de ma thèse, mais c'est vrai, à cette époque-là, on avait été sensible à cette chose-là. Maintenant, on en revient un petit peu parce qu'on s'est aperçu que c'était pas quand même le seul enseignement musical, mais il tenait quand même une grande partie.
Donc les arts libéraux qui sont mis en exergue sur le portail royal de Chartres étaient accessibles donc aux enfants du moment qu'ils avaient du talent et la possibilité.
Arts libéraux, oui, les 7 arts libéraux, hein, le trivium et le quadrivium.
Moi, je parle là de la musique.
Oui,
nous sommes dans le cadre
alors,
de la musique.
Dans les écoles épiscopales comme à Chartres et comme à Poitiers ou ailleurs, en fait dans les grandes villes, là il y avait un enseignement. Mais les arts libéraux, c'est un enseignement théorique. Quand on apprend la musique dans les arts libéraux, elle fait partie des sciences du nombre. Et donc on l'apprend avec la géométrie, les mathématiques et l'astronomie. On peut très bien chanter, aller chanter dans la cathédrale, certes, mais l'enseignement, à proprement parler, concerne des fractions, des rapports, des nombres, à savoir ces rapports qui génèrent les intervalles entre les notes, lesquels intervalles, si on remonte aux théories pythagoriciennes, reflèteraient les intervalles de la création du cosmos. Donc, l'homme est un microcosme au sein du grand macrocosme, avec ses échos de choses divines.
Donc les maîtrisiens, ils vont s'inspirer de la musique, ils ont quand même un peu de théorie, mais ils vont pratiquer surtout le chant.
Ah, ils ont des théories, on leur fait des tableaux d'échelle de notes, je vous disais, on leur apprend à repérer les notes.
Avec la
parce
main.
Que c'est compliqué un peu le solfège médiéval, on peut pas l'expliquer comme ça en trois mots, surtout qu'il faudrait que je puisse montrer des exemples, et c'est pas faisable à la radio.
Oh, bah vous le faites dans vos cours, donc si vous revenez à la fin de cette année.
Donc ils apprenaient, et voyez le Hannibal Gantez, là, le fameux chante qui nous a laissé ses souvenirs en propos truculents, dit qu'il y avait des enfants intelligents qui apprenaient aisément et que le maître, c'est très moderne, que les maîtres devaient être doux et bénins envers les enfants parce que certains cognaient les enfants. Il dit même qu'il y en avait un, quand l'enfant ne comprenait pas, il appelle ça quand quelqu'un n'est pas forcément très vif d'esprit, Hannibal Gantez dit il est constipé du cerveau. Alors quand un enfant était constipé du cerveau, il dit certains maîtres leur faisaient avaler le parchemin, comme ça ils digéraient les notes. Et il dit il ne faut pas faire ça. Il dit et un autre dit aussi dans le Moyen-Âge, un autre moine enseignant dit faut pas taper avec un bâton sur les enfants, si l'enfant ne comprend rien, on peut toujours abattre une forêt et faire 1000 bâtons, il ne comprendra rien même si on le tape avec 1000 bâtons.
Donc de grands pédagogues finalement.
Ah, oui, absolument.
Nous n'avons rien inventé. Est-ce que vous avez encore une petite illustration musicale qui nous ferait très plaisir?
Oui. On va passer dans une musique maintenant toujours qui se chantait à l'église, mais différente un peu de ce que nous avons entendu jusque-là. C'est des Noëls. Vous savez, le Noël fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle le cantique. Le Noël est en langue vernaculaire, donc en français ou en ancien français pour nous. Et ce sont des petits chants qu'on chantait au moment de Noël. Et dans les maîtrises, bien que je vous ai dit qu'il y avait une hiérarchie, qu'il y avait beaucoup de travail, il y a aussi des moments de distraction chez les chanoines aussi. Dans les chapitres, on n'est pas toujours en train de faire un office, heureusement, du reste. Et alors, les enfants font des fêtes et ont le droit de chanter en français. Et à la période de Noël, bien sûr, ils se régalaient déjà avec les petits Noëls. Et dans les petits Noëls, comme ça, anciens, il y a toujours, c'est un petit peu comme les vins, les petits vins de chaque province, il y a toujours une petite marque locale. Et nous allons entendre d'un petit Noël bourguignon. Alors là, il va être interprété par les petits chanteurs à la Croix de Bois, dont j'aurai l'occasion de parler sur un volet sur les maîtrises après la Révolution.
Et nous allons terminer notre émission sur cette pièce musicale. Je vous remercie beaucoup, Marie-Hélène Renon. Nous nous retrouverons dans 15 jours avec une émission qui sera la suite, les maîtrises après la Révolution. Merci beaucoup et au revoir.
Merci.